le placard.
Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Donc, bienvenue dans le placard. Le placard, c'est quoi ? C'est un podcast qui ouvre les portes sur un monde plus queer. Donc, on essaie de donner un peu la parole à des personnes comme toi, comme Sissi, comme votre collectif, pour pouvoir essayer de, à la fois, discuter un peu des sujets queer en France. Et puis aussi, à la fois, vu que mes filles et moi, en fait, on habite en Angleterre et qu'on a cette expérience queer de l'outre-mer, on aimerait recroiser un peu nos expériences pour essayer de voir vers où on va et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire améliorer les choses, qu'est-ce qui pose problème encore en France, etc. etc. Donc voilà, mes filles, je vais te redonner la parole pour pouvoir parler du sujet, du coup, du podcast.
D'accord. Donc ça va faire un peu plus de 2 semaines déjà que la France est en confinement, alors que nous, de l'autre côté de la Manche, on sirote au KLM notre mojito sur la plage. Donc bon, après, je dis ça, mais on est resté en confinement depuis décembre jusqu'à mi-avril, donc bon. Donc on va pas vous demander si ça va, donc clairement, on a déjà la réponse. Mais du coup, on s'est quand même interrogé sur la question de comment maintenir des liens entre queer en temps de crise, d'autant plus quand on est cloîtré chez soi. Donc, je te laisse reprendre la main, Eva.
Sandra, toi, tu fais partie, si j'ai bien compris, tu es une des précurseurs de ce collectif qu'on appelle The Last Team. Et tu as créé, ouais. Donc, si j'ai bien compris, tu as créé ce collectif avec Sissi et une autre personne.
C'est ça.
Dont je ne connais pas le nom.
Alors, son pseudo, c'est Chill Time, qui est à l'origine aussi du projet.
D'accord, ouais. Ok. Et ce collectif, donc ça, vous le dites sur votre site, c'est un collectif solidaire, participatif, 100% mm-hmm. queer.
C'est
et,
ça.
Et bon, bah, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je pense, enfin, on va faire un petit tour de table virtuelle pour qu'on puisse se présenter mutuellement. Et si tu veux, mes filles, commençons par toi.
Très bien, donc moi c'est mes filles, donc je co-présente le podcast avec Eva. J'utilise donc le pronom elle et je m'identifie comme une personne queer. J'ai déménagé en Angleterre il y a à peu près, ça va faire 7 ans, en août. Et donc j'habite à Brighton, ça se trouve sur la côte sud anglaise.
Donc moi c'est Eva, donc moi j'habite voilà, sur Liverpool, c'est dans le nord de l'Angleterre, sur la côte également. Je m'identifie comme une femme lesbienne avec les pronoms elle. Et que dire de plus ? Vas-y Sandra, est-ce que tu veux nous te présenter un petit peu ? Un petit peu plus encore une
fois. Ouais. Alors j'ai tellement tendance à l'avoir déjà eu fait et faire, mais alors moi c'est Sandra, donc on bosse en binôme avec Cynthia qui est pas très loin mais qui est pas à la caméra ce soir. Je suis une ex-parisienne, vraiment parisienne. J'ai vécu à Paris et j'ai beaucoup travaillé sur Paris. J'ai émigré vers les plus grands espaces et j'ai voulu quitter justement les zones urbaines pour d'ailleurs des projets qui vont aboutir. Donc à l'époque je ne les connaissais pas, mais il y avait déjà ce fil conducteur là. Je suis une femme de 47 ans, fraîchement d'ailleurs. Je viens d'avoir 47 ans.
Joyeux anniversaire.
Et je suis bélier. Bélier.
Ah, tu es bélier.
Ah.
Voilà. Je suis un petit oui, bélier et donc je suis lesbienne, qui se revendique lesbienne et qui porte très bien aussi le pronom elle. Donc voilà pour moi. Effectivement, je suis à l'origine de. Je suis cofondatrice donc de ce collectif et donc de tout ce qui en découle, donc du village aux dames, du festival et de tout ce qui, de tous les projets qui vont en découler.
Méfie, est-ce que tu veux commencer par les questions ?
Oui, oui, ça me dérange pas. Bah déjà dans un premier temps, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est top. Donc du coup, je vais pas te demander comment ça va parce qu'on t'a déjà demandé ça tout à l'heure et tu nous as parlé un petit peu aussi déjà de ce que vous faites. Mais comme on a commencé à parler avant que tout le monde nous rejoigne un petit peu,
oui, bien sûr.
Je vais quand même te demander en fait, qu'est-ce que c'est exactement The Last Team ? Comment se sont passés les débuts du collectif ? Pourquoi vous l'avez créé ? Qu'est-ce que ça représente tout ça ?
Donc en fait, The Last Team, c'est un collectif lesbien, un collectif qui est donc solidaire et participatif, donc qui a été créé en 2017 par l'intermédiaire d'un groupe Facebook lambda et qui devait à l'origine d'ailleurs rester qu'un groupe Facebook lambda avec des admins, des modos, comme gérer un groupe Facebook normal. Et puis, je me suis très vite rapprochée de certaines personnes qui avaient un peu les mêmes aspirations que moi et qui, entre guillemets, qui ne voulaient pas amuser le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, qui ne se contenteraient pas d'une page distrayante à travers du digital ou du virtuel. Donc, en fait, on était trois, donc on s'est très vite parlé, on ne se connaissait pas, on n'a pas trop froid aux œufs, on n'est pas trop timide, et on s'est très vite rencontrés, alors que cette communauté, en fait, The Lestime, était plutôt statique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens restaient derrière leur ordinateur et en fait, il ne se passait pas grand-chose, quoi. Pas de rencontres, peut-être des petites vies de quartier dans les grandes villes, mais en fait, il n'y avait pas vraiment de cohésion, il n'y avait pas vraiment de projet, il n'y avait pas vraiment... Et en fait, on s'est dit très rapidement, et c'est quand même un super gâchis, quoi, parce qu'il y a plein d'entités, il y a plein de gens qui ne se connaissent pas peut-être, avec leurs traumas, avec leurs peurs, avec leurs craintes, avec leurs idées de génie, avec leur potentiel, avec tout ça, et en fait, il ne se passe rien, quoi. Et alors ça, pour moi, dans ma tête, c'est tout simplement impossible, clairement impossible. Et en fait, de l'estime, le collectif, au-delà du groupe, est né, c'est-à-dire qu'en fait, on a décidé avec Cici et Marie de créer quelque chose d'un peu plus structuré. Donc, on a longtemps réfléchi parce que ce n'était pas évident, parce qu'en fait, on voulait faire quelque chose de national, on ne voulait pas du tout faire quelque chose de régional, car les assos le font très, très bien. On voulait vraiment donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer et de rejoindre un mouvement qui pourrait coller avec les aspirations de chacune. Voilà. C'est ce qui s'est passé et ça fait 4 ans maintenant. Et en fait, c'est exponentiel, quoi. C'est clairement, on a mis une bonne année à se mettre en route, à se faire comprendre, à essayer d'expliquer qu'on était. Ça n'a pas été toujours simple. Ça, c'est une fois de plus la France. Parce que les gens ici sont très méfiants, ont toujours l'impression qu'on va les rouler, ont toujours l'impression que ce qu'on va proposer ou qui on est, c'est quelque chose de faux, c'est un fake, ça n'existe pas. Enfin bon, tout un tas de trucs divers et variés qui sont dans la tête des gens et qui, moi, personnellement, me dépassent, mais qui existent. Donc, il a fallu perpétuellement donner confiance et puis donner envie, surtout. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est fatalement, pour donner envie, c'est passé par des rencontres. Et en fait, on s'est mis à organiser des events festifs. Au départ, on était 80, 100, et puis on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut donner, on a vu que ça marchait, que les personnes étaient réceptives. Au-delà du fait que ça fonctionnait, que le collectif prenait corps, on s'est rendu compte, en fait, que ça faisait du bien. Alors là, ça a été génial, parce qu'on s'est dit, il n'y a pas que nous, en fait, on s'est rendu compte que l'autre, au-delà d'être un pansement, au-delà d'être une écoute, au-delà d'être quelqu'un à l'autre bout de la France qui pouvait partager, chatter, en fait, l'autre pouvait vraiment aider à apporter quelque chose, mais dans du concret. Et en fait, tous nos events et tout le collectif s'est monté là-dessus, en fait, sur faire ensemble pour aller mieux et pour aller bien et pour avancer ensemble. Voilà. Donc, c'est un cheminement qui s'est fait, qui a été très laborieux au départ. Il a vraiment fallu, en plus, nous, on n'est pas du tout issus de la génération web digitale, vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis tailleur de pierre à la base et Cici travaille dans l'hôtellerie. Donc, il a fallu prendre les manettes et prendre les bons boutons et utiliser des codes en fait qui pouvaient être perçus et reconnus par tous et toutes. Et ça n'a pas été simple.
Mais après, comment du coup ? Parce que je me dis, comme tu dis, vous êtes vraiment focalisé sur rencontres dans la vraie vie, quoi, en réel. Ouais. Donc, avec le Covid, on a eu un gros débat avec Eva, je dis le, mais apparemment c'est la Covid. Donc, mais je refuse de dire Covid.
Ouais, moi je refuse aussi parce qu'au début c'était le et subitement c'est devenu là. Donc, bizarrement, ouais. Dès que ça s'est compliqué, c'est devenu là. Donc, bon.
C'est ça, exactement. C'est le. C'est ça. Donc, comment ça a été du coup pour vous avec le Covid en fait ? Comment vous avez pu faire vu qu'il n'y avait pas de possibilité de se voir vraiment en réel ? Ouais.
Alors, en France, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été confinés, reconfinés. Il y a eu plusieurs étapes. Et nous, tous nos events sont vraiment en amont, parce que c'est des gros préparatifs, sont vraiment préparés 6 mois, 4 mois. Il y a vraiment des phases préparatoires. Donc, en fait, on a eu cette chance, déjà au mois de juin l'année dernière, Et ben, on est passé au travers. C'est-à-dire qu'en fait, pof, on a pu le faire. En fait, on a organisé un open air au milieu de nulle part avec des groupes électrogènes. Et puis, on s'est dit, il faut que les gens se voient. Donc, on a pu, parce que c'était à ce moment-là une période de déconfinement. On a pu le faire aussi pour le festival édition One en mois d'août. D'accord. On est passé au travers, donc ça a été génial.
Beaucoup de chance.
Et puis, on a pu, ouais. Et puis, on a pu faire, l'année dernière aussi, notre événement qui devait être prévu en mars, mais qui a été décalé en septembre, où on avait privatisé un complexe entier sur l'île de Ré. Et 4 jours après, ils reconfinaient. Donc, finalement, le collectif a eu cette chance de pouvoir, à chaque fois, tomber entre des périodes, on va dire, d'accalmie, où effectivement, à chaque fois, on a pris les directives et les précautions sanitaires d'usage pour un collectif qui regroupe des personnes, et on n'a jamais déclenché de cluster, donc c'était très bien.
Bravo.
Ouais, vraiment. Et donc voilà, on a eu de la chance de ça. Et puis bah donc cette période de Covid pour nous, elle a été c'est hyper paradoxal ce que je vais vous dire. Mais en fait, elle a été en tout cas au niveau des futurs projets, de l'élaboration de tout ça. Donc c'est vachement énergivore, où ça demande beaucoup d'investissement et matériel et de logistique et financier aussi. Et ben en fait, on s'est mis à réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, on avait du temps, on n'avait pas de date, on n'avait pas de. On a le collectif qui était là, et de plus en plus là, puisque au travers du groupe Facebook, il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc, ben, on a mis à profit cette période d'inactivité, entre guillemets, pour réfléchir. Alors, tout y est passé, parce que le Covid, je dis bien le, on ne sait pas quoi, personne ne sait, et demain aussi, et cet hiver, ça sera pareil. Mais en fait, il était hors de question de tomber dans une espèce d'immobilisme dévastateur. Et d'ailleurs, bah, on a su garder ce lien, en fait, parce qu'en fait, il se passait rien nulle part, mais on a expliqué qu'il allait se passer des choses et qu'il allait vraiment se passer des choses. Donc, on a expliqué les projets, on a décortiqué les projets, on a mis en place la campagne Ulule pour le village aux dames qui a été absolument incroyable. Et en fait, ça a donné à certaines ce rebond, en fait, vraiment, de se dire, bah, derrière, il va y avoir des choses, et la pire des choses, ça aurait été de rien faire, quoi. Parce que là, on se serait trouvé là, le bec dans l'eau, et puis bah, avoir rien à proposer, et ça, c'était pas possible. Voilà.
Eh ben, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, tu disais que tu as énoncé plusieurs festivals, là, mais combien exactement ? Parce que c'est vrai que j'ai du mal à vraiment comprendre exactement toute l'ampleur, en fait, du collectif.
Alors, en fait, le collectif, c'est... Voilà, on a un collectif qui est, somme toute, commun. On a un système d'adhésion, donc qui... Autre que le groupe Facebook, lui, est multicarte, vient qui veut, participe qui veut, voilà. C'est plutôt un levier pour nous de communication, en fait. Et en fait, on organise sporadiquement, mais c'est de plus en plus fréquent, des events. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être tous les mois un event national. C'est-à-dire qu'en fait, Bordeaux, Lille, avec des thématiques. Ça peut être du festif uniquement. Comme l'open air, on se réunit en bord de dans un. On fait toujours très attention au cadre. Et en fait, on organise des events culturels, on privatise, on se réunit sur des week-ends, 3-4 jours. Là, c'est ce qui va se passer en juin. C'est-à-dire qu'en fait, on a privatisé un ensemble où on va être à peu près entre 80 et 140 personnes avec la possibilité de camper ou d'être dans des gîtes. Enfin, voilà, on propose tout ce genre de choses. Et avec, évidemment, le seul et unique but, pour nous, clairement, il est de rassembler et d'échanger et de faire évoluer le collectif et de passer des moments entre nous et de pouvoir donner une dynamique et des impulsions à d'autres projets, quoi. Donc, c'est très fréquent et c'est de plus en plus fréquent. Il peut y avoir des séjours au ski, il peut y avoir des choses un peu plus particulières, notamment comme le festival. Donc, la première édition a eu lieu l'année dernière au mois d'août. On va dire que c'était l'occasion. On s'est rendu compte que sur le collectif, il y avait énormément de talents amateurs dans le milieu de la, de la danse, de la photographie, les arts graphiques, la musique, le chant. Et en fait, on avait une idée qui nous trottait dans la tête depuis longtemps. On voulait privatiser un lieu et puis organiser une sorte de méga-expo. Et en fait, on s'est dit non, on ne va pas faire ça. On s'est dit, on va faire un truc en plein air et on va faire une scène queer, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner la possibilité à des personnes de s'exprimer. La musique, donc Joël est là, elle est batteuse, elle fait de la batterie. Le théâtre, on avait un mini-théâtre avec des textes lus queer très engagés, mais très très engagés, avec Claude Lagrenouille, avec des personnes de notre collectif qui ont cet art de la lecture. Enfin voilà, on a organisé notre premier événement comme ça. On était 200 dans un cadre hyper bucolique où les filles étaient en camping. Voilà, on a monté une scène, toute une infrastructure de festival. Et puis, ça nous a donné effectivement l'idée d'en faire un autre qui a lieu au mois d'août. Et donc, cette fois, on s'est dit, il faut absolument qu'on donne de la visibilité en dehors de notre collectif. Parce que faire le collectif, c'était un premier pas. On a donné la possibilité à des amateurs, à des dessinatrices, des illustratrices, de notre collectif adhérente, de faire ça. Et on s'est dit, en fait, nous, on est vraiment pour une ouverture maximale. C'est-à-dire que le débat là-dessus, je sais que ça peut choquer certains, certaines, mais en fait, j'adore toutes les étiquettes, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Parfois, j'estime que c'est un peu dommage qu'elles existent, un peu trop. Et en fait, nous, on veut vraiment, en tout cas pour ce festival, qu'il soit vraiment ouvert. On est un collectif lesbien, mais on ne le revendique pas tant que ça avec des panneaux. Et en fait, le festival, et c'est ce qui se passe, est ouvert. C'est vraiment un festival queer qui est ouvert à bon nombre d'artistes. Et on a été contactés, on a été sollicités. Donc cette année, l'affiche, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais c'est étoffé.
voilà. Mademoiselle K.
Voilà. voilà. Grâce à un ami à nous avec qui on collabore, qui est notre DA, notre directeur artistique et qui est en même temps musicien, auteur, compositeur assez reconnu et connu dans le milieu artistique, et qui sans lui, ce festival ne pourrait pas se faire, qui est Mathieu Saladin. Et ça va être de la balle, ça va être génial.
Ça a l'air, ouais. Ah ouais, non, la programmation a l'air plutôt pas mal. Et je vais juste en profiter pour te poser la question de Maëva qui demande, ce festival a lieu où?
Alors, ce festival a lieu donc pour la deuxième année consécutive aux mêmes dates, c'est-à-dire le vendredi 27 août et le samedi 28 août. Donc, l'ouverture a lieu à midi le vendredi. Pour celles et ceux qui resteront le week-end entier, il y a un espace camping, évidemment, avec espace restauration, enfin bon, comme sur tous les festivals. Ils seront là jusqu'au dimanche après-midi, bien évidemment. Et donc, c'est à Vic-sur-Gartempe. C'est un tout petit village. Donc, quand ils nous ont vu débouler là-bas, ils ont halluciné total. Donc, c'est entre Poitiers et Châtellerault. On a pas mal de covoites qui sont en train de se mettre en route, des zones périurbaines ou urbaines. Et voilà, et ça va être un festival... incroyable.
Donc, ouais, super programmation. On a hâte. Est-ce qu'il y aura des vidéos? Est-ce que vous ferez des lives aussi?
Alors, il y a cette année, voilà, il y a une équipe qui est dédiée à ça. On a pris des pros, hein, évidemment, donc du milieu et de la culture queer. Dans tous nos events et dans tout ce qu'on organise, on a vraiment à cœur, et c'est le but, de faire bosser la famille.
Ah oui. Promouvoir les talents obligé. Au sein de la communauté.
Ah non, c'est obligé.
Il faut un beau message. Ouais.
Alors, quel est ton point de vue un peu par rapport aux associations?
Je vais juste vous parler de mon expérience et de notre expérience. C'est qu'en fait, nous, par exemple, quand on a créé The L'Estime, bien évidemment, on a voulu se rapprocher des assos, clairement, pour montrer qui on était, ce qu'on faisait et qu'il y avait peut-être des partenariats et que, en fait, on ne prenait pas quelque chose avec un étendard, c'est mon truc, c'est moi, et personne n'y touche. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de rentrer en contact avec des assos, soit on nous a fermé la porte, clairement, soit on nous a ignorés. Donc déjà, ça, j'ai été vachement étonnée, parce qu'en fait, on avait vraiment quelque chose à proposer. Pour la petite blague, en 4 ans, les choses ont évolué, Et c'est un peu l'inverse qui se passe maintenant, c'est très curieux. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant que TLT est maintenant, et maintenant qu'on a fait nos preuves, peut-être, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire ça, eh ben, je ne sais pas, on vient frapper à notre porte. Sauf que nous, on ne ferme pas la porte, on la laisse ouverte. Je sais que les assos, et on a la même problématique d'ordre financière, c'est-à-dire qu'en fait, pour créer des choses, ça serait tellement génial que ça se crée sans rien. Mais en fait, pour créer des choses, il faut de l'argent. Des projets, ça se monte, il y a une échelle, tout est quantitatif, évidemment, surtout avec l'argent, mais en fait, nous, on se rend bien compte que pour monter des projets, il faut de l'argent, parce que sans argent, comment on fait, quoi ? Donc, et il y a des assos aussi, il y a des assos qui font des choses, et d'ailleurs, moi, je tiens à le dire, les assos, ce qu'elles font, et vraiment le côté militant, se déplacer, tracter, les permanences, ne serait-ce que ça, je veux dire, c'est un boulot colossal, et pour ça, je leur tire mon chapeau. Nous, on le fait à notre niveau, mais on le fait différemment, et parce que surtout, dès le départ, on n'a pas voulu empiéter sur ça. Ce qu'on a proposé, c'est autre chose ou c'est complémentaire. Et j'aimerais bien qu'avec des assos, alors s'il y en a qui voient votre podcast et qui revoient ça, nous, on est prêtes, hein, je veux dire, nous, on est vraiment prêtes à travailler main dans la main avec des assos. On a eu des partenariats établis et un qu'on ne peut pas ignorer, évidemment, c'est avec Jeanne Magazine qui, dès le départ, nous a fait entièrement confiance.
Super, merci beaucoup pour cette réponse très complète, Sandra. Et à approfondir, du coup, j'imagine, si jamais tu es en contact par la suite avec des associations qui, du coup, vous ont fermé la porte à l'époque, ça pourrait être
bien
intéressant
sûr,
de savoir un
ah
peu
bah, carrément.
Pourquoi,
ouais,
en carrément. Fait, est-ce que c'était financier, est-ce que c'était...
Là, on est en train de préparer le festival, il est dans 4 mois, et on a vraiment pour idée de faire une com générale sur le festival et leur adresser quelque chose de très particulier à chacune des associations. J'ai quelques noms déjà en tête et on a déjà ciblé, voir leur retour parce qu'on aimerait que les assos viennent. Et en fait, on les accueille avec plaisir et on les accueillera avec plaisir et on a la structure pour les accueillir.
Bon. On a parlé pendant longtemps et je pense qu'on va clôturer avec une dernière petite question du coup.
Ouais, ok.
Vu que le sujet d'aujourd'hui c'était les communautés virtuelles et en temps de crise.
Ouais.
La dernière question sera sur les réseaux sociaux. Selon vous, quel est votre réseau social préféré pour pouvoir échanger, rester en contact avec votre collectif et puis pourquoi ?
Alors bah ça a été nous c'est on a un groupe Facebook qui est dès le début hyper connu et reconnu pour ça maintenant c'est très structuré et c'est très très solidaire. Donc en fait nous notre moyen de communication qui nous paraît et qui nous a paru dès le départ très naturel et très légitime, ça a été Facebook quoi, voilà. Ça a été Facebook, c'est un groupe privé donc c'est on a une façon de gérer le groupe qui est bien la nôtre. Voilà. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur le groupe, on est 3000, on devrait être 20 000. C'est les stats. Il y a vraiment une complicité dans le virtuel qui est née entre certains et certaines. Et ça, c'est top. Après, Insta, c'est un autre support. Voilà, Insta, ça va un peu plus vite. Voilà. Après, tous les événements et tout ce qu'on peut organiser ou proposer est visible sur multiples plateformes. Et notamment le Village aux Dames ou notre futur écolu LGBT, le Village aux Dames le site web est en cours de construction et c'est notamment la rédactrice en chef qui s'en occupe de Jeanne Magazine, Stéphanie Delon, qui c'est son métier. Donc, quand je dis qu'on veut faire bosser la famille, voilà, par exemple. Voilà, donc Facebook, la réponse.
Facebook,
d'accord.
Je te rejoins sur Facebook aussi. Je trouve que c'est une plateforme un peu plus sécurisée, on va dire, parce qu'on peut faire des groupes fermés. Et justement, en parlant de communauté et communauté virtuelle, il y a de ça, je ne sais plus combien de temps, ça fait 4 mois peut-être, Eva, je ne sais plus.
Oui, quelque chose comme ça.
Ouais, donc j'ai créé en fait un groupe Facebook pour tous les Français, Françaises qui vivent en Angleterre, qui sont expatriés. Donc ça s'appelle LGBTQ+ Françaises au UK. Donc, cool. Et ça permet en fait de se connecter et c'est super cool et c'est un
groupe privé.
Ouais. auquel il faut répondre. Est-ce que tu fais partie de la communauté ou pas? Parce que c'est un groupe vraiment exclusivement aux personnes de la communauté, pas d'alliés.
Bien sûr.
Ouais, voilà.
D'accord, ok.
Pas besoin de faire du policing ou autre chose.
Ouais, non, mais c'est plus prudent, clairement. Exactement. Parfois, c'est vraiment plus prudent de faire comme ça. Je suis d'accord avec toi.
Super, merci beaucoup Sandra. Du coup, je vais repasser la main à Eva pour clôturer ce premier épisode du Placard.
Eh bien, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Et puis, merci à vous, le public, votre écoute. Bon, ben, en tout cas, ce podcast, ce live sera présent sur les plateformes de podcast. Donc, on vous invite à mettre un petit like et puis à nous rejoindre aussi sur Instagram. Donc, The Less Team, Sandra, est-ce que tu veux nous dire votre arrobase?
L'arrobase The Less Team, c'est The Less Team.
Ouais, il n'y a pas d'autre... Ok. Donc, arrobase The Less Team pour celui de Sandra et de ses compatriotes.
C'est ça.
Et pour mes fils, c'est Please Tell Mama et moi, c'est sous le nom de Hi Petite Eva. Donc, on mettra tout ça en description, bien entendu.
C'est important de le revendiquer quand on fait des belles choses et vous allez faire des belles choses parce que moi, je crois fort en vous, clairement, parce que le format est top et je tenais à le placer quand même. Vraiment, le format est top, c'est bien vu, c'est juste ce qu'il faut, c'est bien dosé. Ça peut donner quelque chose de vraiment super, les filles, et franchement, nous, à La Lestime, on vous suit à 100%.
Oh, ça fait super. Plaisir.
Ouais, ça fait plaisir et puis on essaiera de... Dès qu'on peut bouger un peu plus du continent, on essaiera de venir s'incruster à l'un de vos événements.
Avec plaisir, il n'y a aucun souci. Vous êtes vous deux les bienvenus, il n'y a pas de problème.
Merci encore à Sandra de The Less Team pour nous avoir accordé du temps. Et si vous souhaitez les soutenir, sachez que le collectif The Less Team est en pleine création d'un écolieu LGBT inclusif en France. Il s'agira entre autres d'un lieu d'accueil et d'hébergement, mais aussi avec un espace dédié à la culture et un espace de coworking et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ulule.com/le-village-o-dame. Vous venez donc d'écouter Le Placard, une émission préparée et présentée par Eva et mes filles. Rendez-vous donc le mois prochain pour notre deuxième épisode intitulé « Transidentité et politique, le parcours d'une mère avec Mariko ». Merci.